Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Il y a une fuite des talents très importante. Mais je suis persuadé qu'on finira par rentrer pour récupérer le pays.
Regardez le Venezuela depuis l'Espagne. Quand on est fraîchement immigré, ils sont très nombreux. Les Vénézuéliens en Espagne, ils sont 20 000 pour la seule Barcelone. Et c'est à travers leur regard qu'on suit les secousses vénézuéliennes ce soir. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, au Liban, aux Pays-Bas et en Australie, 18h50. L'Europe, on l'aime ou on la quitte, avec Quentin Dickinson et un nouveau code de conduite pour les députés européens, notamment leur rencontre avec les lobbyistes. 18h55, le monde à l'envers de Franck Madvon, avec l'Europe, tiens, qui se rebiffe, un nouveau système de paiement pour commercer avec l'Iran et contourner les sanctions américaines. Ça ressemble plus à du troc, ça ressemble surtout plus à de la politique que de l'économie. On le verra dans un instant. En attendant, Haro sur les GAFA. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Si les GAFA alors finissaient par les payer, ces impôts, à quoi ils ressemblent au fond ce fameux accord mondial que l'OCDE a mis sur la table il y a 48 heures maintenant? Est-ce qu'on est vraiment en train de supprimer les angles morts des fiscalités mondiales? Vous allez me dire, c'est un peu un serpent de mer cette histoire, oui. Mais peut-être que justement ça bouge. Bonsoir Benoît Thiolin.
Bonsoir.
Vous êtes ancien président du Conseil national du numérique. Est-ce qu'on se trompe un peu, ou est-ce que oui, peut-être que là effectivement il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui jusqu'à présent était un peu figé?
Il y a incontestablement quelque chose qui est en train de bouger. D'abord, je dirais, dans la société. C'est-à-dire que pour avoir un peu travaillé sur ces questions depuis quelques années, j'ai eu la chance de travailler sur le sujet, de remettre un rapport à l'époque au ministre Pierre Moscovici, donc il y a maintenant 5 ou 6 ans. À l'époque, on en parlait quand même beaucoup moins. On se servait des GAFA, on était très contents des services qu'ils nous apportaient, on se préoccupait moins en réalité de leur empreinte économique et sociale et fiscale.
Il y a un contexte aujourd'hui qui a
là,
bougé.
Là, le contexte a changé. Je crois que je disais même tout à l'heure qu'il y avait attaque étalée dans un...
Absolument.
Étalée au siège
chez Google,
de Google.
Aujourd'hui,
voilà,
prélèvement à la source, disent-ils.
Exactement. Allons chercher à la source directe. Voilà, enfin, il y a eu les mêmes types de happening face à Apple. Enfin bref, c'est devenu quand même socialement, politiquement très difficile pour les GAFA d'assumer d'être à la fois un objet du quotidien de consommateurs et du grand public, et en même temps de ne pas s'acquitter des impôts. Et je pense que ce contexte-là, qui fait qu'on en parle beaucoup, qui fait d'ailleurs que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est remonté quand même, énormément. Tout ça en fait crée une caisse de résonance qui, je dirais, pousse quand même politiquement à ce que les décideurs se saisissent réellement du sujet.
Alors, pousse les décideurs, mais est-ce que les GAFA, pour l'instant, sont en train d'essayer de faire le dos rond, ou est-ce qu'ils ont compris eux aussi, au fond, qu'à un moment il allait falloir les payer, ces impôts?
Parce qu'effectivement,
pardon, vous parlez des Gilets jaunes, mais c'est très mondial, en fait, cette idée que il y a des choses qu'on ne tolère plus aujourd'hui.
Exactement,
en fait.
C'est quelque chose d'assez général. D'ailleurs, sur la taxe française elle-même, on a beaucoup parlé de cavaliers solitaires.
Bien sûr, et on va y venir, d'ailleurs.
Voilà, en réalité, si vous regardez, il y en a des projets un peu équivalent, soit déjà effectif à Singapour, en Angleterre, soit en projet en Inde. Voilà, et ça se multiplie à travers la planète. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème général, global, qu'au fond, la grande publicité, la grande connaissance qu'on a tous de ces GAFA fait que c'est difficile pour eux de le faire d'une certaine manière un petit peu caché.
Est-ce qu'il y a une sorte de mea culpa de la part des GAFA aussi, qui se disent, ok, on ne peut plus contourner ça, en fait, il va bien falloir qu'on s'y mette, ou pas?
En fait, ils ont toujours eu un discours assez, d'abord, on va dire assez polissé, et ils marchent d'une certaine manière sur des œufs, ce qui est normal. Hein. Nous sommes leurs consommateurs au quotidien, en fait. Donc ils ont très très peur quand même de leur mauvaise image potentielle. Et donc ils ont toujours dit, ils sont toujours abrités d'une certaine manière, avec une certaine langue de bois, mais que d'une certaine manière respectaient les lois fiscales. Ce qui, très honnêtement, d'un point de vue strict, n'est pas complètement faux.
Oui,
hein. Il n'y a pas de fraude. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'optimisation fiscale. On dit quand même agressive, parce qu'elle est industrielle, elle est très complexe. Elle utilise quand même des mécanismes assez compliqués, mais d'un point de vue légal, c'est difficile quand même de leur reprocher quoi que ce soit. Et donc, ils sont souvent abrités derrière, tout en pensant, en fait, et ils le disaient un petit peu en off d'une certaine manière, qu'ils sentaient bien qu'à terme, il faudrait un jour qu'ils se mettent à payer les impôts comme les autres, mais en renvoyant un peu la balle dans le camp des décideurs publics, en disant, mais nous, on serait prêts à les payer, encore faudrait-il que vous soyez capables de faire des lois fiscales qui nous obligent à les payer.
Alors justement, donc, l'OCDE annonce un accord mondial. Alors on est d'accord, c'est pas pour tout de suite, il faut que tout le monde se mette réellement d'accord, on est censé arriver à quelque chose vers 2020, mais quand même, il y a 127 pays derrière ce projet. J'ai même lu révolution historique, fermez les guillemets, est-ce que vraiment on en est là? Est-ce que c'est inédit? Est-ce que ce pas-là, cet accord-là, est inédit à 127?
Oui, alors, moi je crois que ensuite, il faudra voir si c'est effectivement effectif, mais oui, très honnêtement, pour avoir suivi depuis quasiment le début hein, les travaux de l'OCDE, et qui fait d'ailleurs que moi-même j'ai pu évoluer sur le sujet, c'est-à-dire que il y a 4 ou 5 ans, je pensais que les taxes nationales étaient en réalité un peu contre-productives, qu'il valait mieux que ce soit l'OCDE, l'Union européenne qui saisit du sujet, parce qu'elles allaient d'une certaine manière faire quelque chose d'assez global et de durable, hein, c'est-à-dire changer les lois fiscales. On pourra revenir peut-être sur les deux grands mécanismes qui permettent au fond à ces GAFA d'échapper aux impôts, parce qu'en fait, il y a d'une part le fait que, et ça date pas du numérique, ça date même d'avant, le fait que d'une certaine manière, on arrive à faire remonter par ce qu'on appelle les prix de transfert en réalité, donc là où il y a des bénéfices, où il y a du chiffre d'affaires dans un pays, mais qui n'est pas le pays du siège de cette entreprise, eh bien ils vont faire valoir de faire remonter des droits de propriété intellectuelle, soit au siège, soit d'ailleurs dans un autre pays, et en général ce pays évidemment est bien choisi, et du coup ils vont diminuer leurs bénéfices jusqu'à les réduire presque à pas grand chose, et d'une certaine manière comme ça pouvoir rapatrier à bon compte de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme. Ouais. Et puis le deuxième mécanisme qui est lui plus digital, c'est que en fait on est dans une économie qui est complètement dématérialisée. Quand vous êtes avec un téléopérateur, que vous achetez des clics de la publicité en ligne, bon que cet opérateur il est en Irlande, c'est très difficile, vous pouvez vous-même en tant qu'entreprise quasiment ne pas avoir de représentation ou très peu dans le pays dans lequel il y a eu en fait l'acte de consommation, et pour les États c'est toujours assez difficile en réalité d'assurer une traçabilité de ces échanges économiques et du coup de les taxer. Bon, ce que l'OCDE a pris comme décision, en tout cas de réflexion et de travail, hein, parce que c'est un axe de travail, ils doivent rendre fin 2019 et peut-être effectif après un G20 en 2020, eh bien c'est précisément d'empêcher ces deux grands mécanismes, c'est-à-dire de faire en sorte d'une part que, eh bien on puisse dire que c'est peut-être le nombre de consommateurs dans le pays.
On taxe là où sont les consommateurs.
Exactement.
En fait.
Et ça veut dire, du coup, mais changer quand même des grands principes de ce qui a été la fiscalité internationale régulée, notamment au sein de l'OCDE depuis des années. Donc ça, c'est quand même une avancée énorme. Et puis, parce qu'il se disait, on ne sait jamais, ça ne suffit pas. Il y a aussi l'idée d'encadrer davantage et même de regarder au global quel est l'impôt finalement qui est payé par ces multinationales et d'être capable même de rééquilibrer en disant, eh bien, si tout d'un coup il y en avait vraiment au global assez peu qui étaient payés, on serait capable de fixer un plafond minimum dans lequel elles seraient obligées de s'en acquitter. Voilà. Donc on sent quand même au global qu'il y a une vraie volonté de la part de l'OCDE de rentrer dans le dur et de trouver un système durable pour obliger ces entreprises à payer leurs impôts.
Alors maintenant, Benoît Thulin, j'imagine qu'on n'a pas découvert ça, genre bon sang, mais c'est bien sûr, si on faisait comme ça, il y a quelque chose qui a permis de débloquer et de faire en sorte que ces deux mécanismes puissent, potentiellement encore, mais puissent se mettre en place. Qu'est-ce qui a débloqué en fait? Est-ce que c'est simplement que les Américains ont dit oui et que quand les Américains disent oui, subitement c'est un flot de possibilités qui s'ouvre?
Alors effectivement, Je maintiens quand même que je pense qu'on a voulu politiser le débat depuis quelques années et qu'on a eu raison. Et que voilà, il faut le name and shame qui est beaucoup utilisé aux États-Unis.
Montrer du doigt.
Exactement. Eh bien, il a aussi porté ses fruits. C'est-à-dire que voilà, elles ont, ces entreprises quand même sont fragilisées par ces discours. Elles y veillent, elles sont attentives. Et donc politiquement, c'est devenu difficile. Et puis on voit se multiplier les projets de taxes nationales. Et ça contribue aussi à ça. Et effectivement, les entreprises ont plutôt intérêt à ce que d'une certaine manière, on remette de l'ordre dans l'ensemble de l'édifice, plutôt que chacun de son côté fasse des taxes, avec tous les problèmes de conflit en réalité, et ensuite, je dirais, l'insécurité juridique qui entourera évidemment ces taxes-là. Et puis, l'autre, la surprise, je dirais, récente, hein, on a un président des États-Unis qui est imprévisible, en général, c'est plutôt pour le pire, et là, bah, pour une fois, c'est peut-être plutôt pour le meilleur, c'est-à-dire qu'après avoir réformé la fiscalité aux États-Unis, vous savez qu'il a baissé très fortement l'impôt sur les sociétés, et bien tout d'un coup, ils disent quand même,
il y a un manque à gagner, du coup.
Il faut qu'on élargisse notre assiette fiscale et parmi les objectifs de cet élargissement, il y a évidemment de faire rentrer dedans ces grandes multinationales, notamment du numérique. Mais j'insiste sur un point, c'est que ce sujet va aussi nous obliger d'une certaine manière à trancher une petite schizophrénie qu'on a en France et qu'on a en Europe. C'est-à-dire que ces mécanismes qu'on regarde et qui permettent, effectivement, qu'on regarde avec critique forte, et qui permettent à des entreprises comme Google, Facebook, mais aussi Starbucks ou
mais
McDonald's
alors,
de pas payer
l'impôt,
il faut voir aussi qu'il y a des entreprises françaises en Inde, en Chine, qui utilisent des mécanismes un peu voisins pour elles-mêmes, ne pas laisser trop de profits taxés là-bas. Et donc, il va falloir aussi qu'on fasse d'une certaine manière du nettoyage
chez nous. Ça s'appelle le droit à taxer, paraît-il. En fait, ça s'appelle le droit à taxer, où on peut taxer effectivement ailleurs et autoriser à taxer aussi ailleurs. Moi, il y a une chose qui m'interroge dans ce que vous avez dit, les entreprises, notamment numériques. Parce qu'effectivement, ce qu'on vise, ce sont les entreprises numériques, mais ça veut dire que toutes les multinationales sont dans ce lot-là aussi. Il ne peut pas y avoir une loi fiscale pour les uns qui ne tiennent pas pour les autres. Donc, qu'est-ce qu'on entraîne avec soi dans ce sillage-là ?
Non, justement, c'est la grande avancée, et c'est ce qui fait que d'ailleurs l'OCDE a des travaux de qualité, et que là, ça peut déboucher sur quelque chose de vraiment intéressant, c'est qu'ils ont vraiment une volonté de remettre à plat la fiscalité, et donc de ne pas faire une taxe sectorielle, je dirais, qui serait un peu une espèce de sparadrap sur un système qui fonctionne assez mal, mais là, c'est bien, en fait, de remettre tout à plat. Ce qui veut dire que ça permettra, effectivement, de taxer de manière correcte, a priori, les entreprises numériques, mais en fait, pas que les entreprises du numérique, c'est une redéfinition vraiment globale, et je vous dis, les entreprises françaises qui sont pas dans le numérique, ou un Starbucks qui n'est pas du tout dans le numérique non plus, mais qui utilisait ces mécanismes de royalties, hein, je fais remonter là où il y a les droits de propriété intellectuelle, et mes mécanismes de prix de transfert, bah, ils sont un peu opaques, bah, là, tout d'un coup, toutes ces choses-là ne seront pas permises comme elles l'étaient jusque-là.
Alors, vous l'avez souligné, chaque pays, en attendant, fait un petit peu son business de son côté, au fond, et c'est le cas aussi en France, puisque Bruno Le Maire, on a même parlé ici, même au micro où vous êtes il n'y a pas si longtemps, il y a tout un projet qui est mis en place par Bruno Le Maire. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ce système, un système spécifique dans chaque pays se mette en place, quoi, en attendant qu'il y ait un système global ? Est-ce que c'est possible de faire une espèce d'entre-deux ? Ou est-ce que finalement, si que l'OCDE commence à se mettre d'accord que ces 127 pays là soient ensemble, efface en attendant ce qu'on est en train de faire d'un pays à l'autre ?
Je ne sais pas ce que décidera Bruno Le Maire et le gouvernement, mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que chaque année, c'est quand même des milliards hein, qui s'en vont. Je disais récemment qu'il y a eu encore 20 milliards de transférés aux Bermudes, je crois, par Google, mais je vous dirais, il y a plein d'autres multinationales qui ont ce genre de pratiques. Donc, chaque année qui passe, en fait, voit des milliards s'envoler. Donc, qu'on essaye de se préoccuper aussi de la phase de transition, avec des impôts, ou plutôt des taxes d'ailleurs, qui sont des taxes sectorielles, et donc qui ont toujours des effets pervers. Hein. C'est vrai que c'est pas génial de faire une taxe un peu spécifique, d'abord parce qu'elle est fragile juridiquement. Elle est fragile juridiquement, je vous rappelle quand même.
Mais
que...
parce que du jour au lendemain, on se met. Alors typiquement dans le projet de Bruno Le Maire, du jour au lendemain, on se met à taxer le chiffre d'affaires. Mais attendez, oui, je veux bien, mais quoi, c'est rétroactif, c'est pas rétroactif. Pourquoi on le fait pour certains, pas pour d'autres ?
Enfin, c'est tout le sujet. C'est pour ça d'ailleurs que le yaka faucon en matière fiscale, on a envie, mais d'une certaine manière, c'est très dangereux. Je vous rappelle quand même que le dernier redressement qui avait été lancé, je crois, par Michel Sapin sur la période 2011-2016 pour Google, mais on pourrait parler de Facebook ou d'Amazon ou d'autres. Hein, il y a des exemples un peu équivalents. Ce redressement fiscal a été attaqué par Google devant la justice française qui a gagné. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il faut bien comprendre que la fiscalité, c'est quelque chose d'éminemment complexe, une espèce de jungle avec des accords bilatéraux entre les pays, parce qu'évidemment, on n'a pas envie non plus de surtaxer. Vous n'avez pas payé taxer plusieurs fois une même entreprise pour le même type de service et de chiffre d'affaires qu'elle a généré. Donc, c'est un système qui est assez complexe. Je dirais, les taxes sectorielles, elles ont aussi des effets pervers, hein. Nous, on avait étudié au Conseil national numérique à l'époque. On s'était rendu compte, ben voilà, si on faisait une taxe sur la publicité en ligne, par exemple, le risque, en fait, c'est qu'on allait plutôt, à la fin, pénaliser l'économie numérique française, probablement en relevant le prix de la publicité par rapport à d'autres pays. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des Européens, et pas des moindres, hein, je crois que le PDG de Spotify, quelques autres licornes, ou en tout cas quasi-licornes européennes, sont plutôt défavorables à des taxes sectorielles sur le numérique qui soient nationales. Et on peut tout à fait les comprendre. Moi, je pense que c'est une transition et que ça doit aussi, d'une certaine manière, maintenir un peu la pression sur l'écosystème, de manière générale, dans lequel il y a les États, dans lequel il y a les entreprises, et faire comprendre que, quand même, il vaut mieux un système global, durable, bien cadré, plutôt que des taxes dans tous les sens. Mais maintenir cette pression, à mon avis, n'est pas complètement inutile. Et puis, ça permettrait peut-être quand même de faire entrer quelques centaines de millions d'euros en France, peut-être en Angleterre, puisqu'ils ont un projet un peu équivalent. En Inde, en Italie, ils sont un peu revenus sur leurs décisions.
Et alors justement, ce sera la dernière question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pays sur lesquels vont, dans lesquels vont les GAFA ? Donc, je pense à l'Irlande, le Danemark, le Luxembourg, enfin ces endroits-là. Est-ce que du coup, le paradis fiscal, enfin, je mets des guillemets parce qu'on n'est pas exactement là, mais cet avantage fiscal, on va dire, disparaît. Donc, ça n'a plus d'intérêt, en gros, d'aller s'installer. Donc, effectivement, il y aura un gros manque à gagner de ce côté-là. Comment on s'arrange avec ces pays-là qui, pour l'instant, évidemment, ne sont pas favorables à un accord ?
Oui, ce sera effectivement un problème. Il y a sûrement d'autres raisons pour un géant américain d'avoir envie d'être en Irlande. La langue, la proximité culturelle, enfin, et puis aussi, évidemment, son écosystème autre. Mais c'est vrai que l'avantage fiscal, mais de plus en plus, je vous dirais, c'est sain, est vu aussi comme un acte de concurrence déloyale entre les États. C'est-à-dire qu'au fond, on parle de dumping fiscal, c'est pas pour rien. À un moment donné, voilà, c'est un moyen, au fond, qui n'est pas très loyal vis-à-vis des autres acteurs économiques.
Allez, sur une échelle de 1 à 10, ce fameux accord de l'OCDE pour 2020, vous dites oui, ça va se faire.
Oui, je suis plutôt optimiste. Ouais. Okay. Je pense que ça se fera, mais par contre, ça mettra peut-être un petit peu de temps à être mis en place. 2020-2021, mon avis, ça me semble assez court. Donc 3-4 ans, c'est long. Autant avoir des taxes de transition.
Benoît Thiolien, merci beaucoup. Merci de votre passage d'un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Et la suite, ça se passe à Barcelone avec des réfugiés vénézuéliens sous les radars et Amélie Perrier qui nous parlera de la messe la plus longue de l'histoire, notamment l'Europe comme on l'aime ou qu'on la déteste avec Quentin Dickinson et des députés européens qui tentent de s'acheter une conduite. Et puis le monde à l'envers avec vous, Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Et l'Union européenne qui invente une sorte de stratégie de contournement alors pour commercer avec l'Iran.
Bah oui, ils veulent continuer les Européens à faire des affaires avec l'Iran malgré les sanctions américaines et ils ont mis au point un mécanisme qui a été révélé aujourd'hui. Ses vertus, on le verra, sont essentiellement politiques.
Et on voit ça ensemble tout à l'heure à 18h55. Le tour de la planète continue. Il passe par chez nous, mais avec un accent anglais. Loudoyon sur France Inter. C'est tout neuf, c'est dans la playlist de France Inter. La chanson s'appelle Burn.
Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Well, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the blue. See me bend, become a child again. Back on my tiptoes, oh, watch me shoot it. By my own will, I'm here for the fun. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back. Or just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted. But when I'm up close, it's too late to turn back. Or just like the book, I'm trying. To the late, I'm attracted. To the late, I'm attracted. To the bird.
Loudoyon et son nouvel album. La chanson s'appelle Burn, c'est sur la playlist de France Inter et c'est tout chaud. La sortie officielle d'ailleurs, c'est demain.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. Amélie, la communauté LGBT a remporté une belle victoire hier au Liban.
Oui, une décision de justice, le rejet d'un recours de 5 avocats qui demandaient l'interdiction de cette émission sur la chaîne Al Jadid. Alors le programme s'appelle Anna ache, je suis ainsi. Selon les 5 avocats qui voulaient l'interdire, ce programme fait la promotion des cas sociaux déviants et les met en lumière comme s'il s'agissait d'exemples à suivre pour la jeune génération. Il sape les valeurs morales de la société libanaise. Je ferme là les guillemets. En fait, dans Anna Ache, le présentateur vedette, Neshander Aroutyunyan, a reçu en plateau des lesbiennes. Et cela lui vaut des torrents d'insultes et de menaces, des pressions de la part des fondamentalistes comme la Jama Islamia. Lui, il assume, il persiste, il dit ne vouloir que refléter la réalité, il dénonce une société patriarcale qui pratique la politique de l'autruche en refusant à la femme de choisir sa sexualité. Hier, donc, la justice lui a donné raison, il a pu présenter son émission comme tous les mercredis soirs. La magistrate qui a tranché a considéré que les requérants n'avaient aucun intérêt personnel dans le dossier, ils n'étaient pas lésés directement et l'interdiction de l'émission aurait constitué, selon la juge, une censure préalable, soit une atteinte à la Constitution. Alors, l'affaire n'est pas terminée pour autant. La Jama Islamia invite la justice et le Conseil national de l'audiovisuel à réagir.
Amélie, l'une des messes les plus longues de l'histoire, peut-être aux Pays-Bas.
Une messe qui vient de durer 96 jours, oui, plus de 3 mois, on continue. Et là, ce n'est pas l'affaire des extrémistes, mais celle d'une église néerlandaise qui a tout fait pour empêcher l'expulsion d'une famille arménienne, les Tamrazians. Les parents et leurs 3 enfants ont trouvé refuge aux Pays-Bas depuis 9 ans, après avoir fui leur pays. Le père était un opposant politique menacé de mort. Mais les autorités, en fin d'année dernière, ont refusé leur demande d'asile. Alors, le 26 octobre, ils entrent dans la petite église protestante Bethel, à La Haye, un sanctuaire, car aux Pays-Bas, la police n'a pas le droit de pénétrer dans un lieu de culte pendant un office religieux. Le pasteur va donc entamer un marathon, un office sans fin, 24 heures sur 24. Et pour tenir le coup, il reçoit le soutien d'autres pasteurs. Quand un journaliste américain lui demande combien, il répond... 650, répond-il. 650 pasteurs pour assurer la messe 24 heures sur 24. Et ça n'arrête pas d'augmenter, précise-t-il. Alors la petite église devient une sorte de pèlerinage où pasteurs et croyants se relaient, venus de partout aux Pays-Bas, mais aussi d'Allemagne, de France, de Belgique, pour faire finalement plier le gouvernement. Le dossier de la famille Tamrazian va pouvoir être réétudié, avec beaucoup d'autres d'ailleurs. Le gouvernement accepte de réévaluer les demandes d'asile refusées d'environ 700 enfants étrangers qui ont grandi dans le pays.
Voilà qui n'a pas eu cette chance. C'est un réfugié qui vient de gagner un prix littéraire, mais qui n'a pas pu aller le chercher.
Oui, il s'appelle Behrouz Bouchani. Il est kurde, iranien. Il vient de remporter le prix littéraire le mieux doté d'Australie, le Victorian Premier Literary Award. Il a même été désigné vainqueur dans 2 catégories hier soir. Il remporte 125 000 dollars, mais Behrouz Bouchani n'a pas pu assister à la cérémonie, car c'est un demandeur d'asile, expulsé comme beaucoup de migrants sur l'île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y est depuis 6 ans.
For us, it is a prison.
Alors pour nous, disait-il l'an dernier dans une interview sur l'île, c'est une prison. Et c'est même pire qu'une prison, parce que dans les prisons, ailleurs dans le monde, on ne torture pas comme ça les détenus. L'île de Manus, où l'Australie possède un centre de rétention de migrants en échange d'aide au gouvernement local. La Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée a ordonné sa fermeture en 2016. L'Australie a dit d'accord, sans préciser de date. 3 ans plus tard, donc, des migrants comme Behrouz survivent toujours là-bas, dans les limbes de la politique migratoire australienne, intransigeante, barbare, dit Bouchani. L'écrivain, conscient de l'ironie de son prix, hein, il est décerné par un pays qui ne veut pas de lui, espère quand même qu'il attirera l'attention sur le sort réservé à ses exilés.
Amélie Perrier, tous les jours, dans Un jour dans le monde, sous les radars, merci beaucoup.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
Mika, le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde,
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Espagne que nous emmène l'Escale Reportage ce soir, en Espagne avec un œil sur le Venezuela où nous étions hier, parce que nombreux Vénézuéliens sont réfugiés en Espagne. Ils ont manifesté d'ailleurs leur solidarité dans la rue eux aussi. Les autorités espagnoles parlent de dizaines d'arrivées chaque mois depuis le Venezuela. Environ 20 000 personnes sont déjà à Barcelone. Bonsoir Mélanie Nunes.
Bonsoir.
Vous allez nous emmener au cœur de cette communauté vénézuélienne fraîchement installée et qui regarde son pays bouger en ce moment.
Des bottes de sécurité aux pieds, Josbel, 27 ans, architecte, suit les travaux d'un chantier de construction. Il a fui son pays il y a quelques mois, un billet sans retour depuis Caracas à destination de Barcelone. Il fait partie de ces rares Vénézuéliens à avoir un contrat dans sa branche. Lui n'est pas payé au noir, il est salarié. Son frère et son père restés au pays lui interdisent de revenir.
80% des Vénézuéliens qui travaillent illégalement sont des professionnels. Il y a une fuite des talents très importante. mais je suis persuadé qu'on finira par rentrer pour récupérer le pays. Je crois qu'on rêve presque tous les jours à la même chose. Repartir. Nous rêvons à demain, lorsque ce gouvernement ne sera plus là. Alors on pourra peut-être rentrer chez nous. Nous aurons une autre vision et nous pourrons apporter tout ce qu'on a appris ici.
À l'heure du déjeuner, il se rend régulièrement dans une petite boutique vénézuélienne.
Yes, como una pastelería.
C'est une pâtisserie. Ils vendent de la farine de maïs. On peut cuisiner des plats typiques avec ça. Je vais prendre une chicha. C'est une boisson assez fraîche. C'est la première fois que j'en bois. Et j'en avais encore jamais bu ici. La dernière fois, c'était à Caracas. Allez, on va rentrer.
Tablier noir, tenant un large plateau, Christian, le serveur, vient prendre la commande. Les deux hommes se saluent, leur visage leur semble familier. Très vite, ils comprennent qu'ils ont grandi dans un quartier voisin de Caracas. Lui est arrivé il y a 3 mois et travaille sans contrat.
C'est une des pocas ciudades d'Europe que je me siento bienvenido aquí.
C'est l'une des villes d'Europe où je me sens le bienvenu. J'ai 23 ans aujourd'hui et peut-être qu'il faudra attendre 50 ans avant que la situation là-bas ne se stabilise. C'est un peu compliqué. Je suis arrivé ici grâce à ma sœur. Elle a vécu ici, elle m'a aidé pour les démarches administratives légales. C'était pas facile au départ. Elle m'a expliqué où aller pour trouver du travail, de m'adresser à des restaurants vénézuéliens, car en général, les patrons sont assez conscients du problème. Tu vois, j'étais assis à cette table-là, le patron est arrivé et m'a rien demandé sur mon expérience. Il m'a dit « Bon, tu commences demain à cette heure-là, rien de plus ». Il y a beaucoup de solidarité dans cette communauté. Les gens qui peuvent aider le font vraiment. Ma mère est malade d'un cancer. Elle doit chaque jour prendre un traitement, toute sa vie. Alors je dois envoyer chaque mois des médicaments pour elle.
Des médicaments, un besoin sanitaire quasiment introuvable au Venezuela. Alors une association a été créée par des médecins exilés, appelée Ven da tu mano, littéralement « Tends et donne-moi ta main ». Chaque semaine, Magdalena Suarez, infirmière, fait le tour des pharmacies et cabinets médicaux à la recherche de ces produits devenus si précieux pour les familles restées au pays. Nous la suivons lors de sa collecte.
Nous les récupérons, ensuite nous faisons un inventaire, puis nous essayons de faire en sorte qu'ils puissent arriver jusqu'au Venezuela. Il y a de l'alcool, des compresses de gaz, mais parfois nous cherchons des traitements très difficiles à obtenir, contre le cancer ou le sida par exemple. Pour le moment, nous avons envoyé 13 tonnes. C'est très important car il y a une crise humanitaire, il y a beaucoup de gens qui meurent, des enfants. Toujours plus arrivent ici avec beaucoup de besoins.
Magdalena Suarez doit passer par des réseaux de confiance, par peur de se faire confisquer cette aide humanitaire. Mais d'autres voudraient également aider cette communauté toujours plus nombreuse à Barcelone. Maria Teresa Guzman, 41 ans, est arrivée il y a 4 ans. Elle le confirme, chaque jour, de nouveaux exilés arrivent sur le sol catalan, parfois sans aucun centime en poche. Ces débuts difficiles, elle les a aussi traversés.
Ça, c'est la cotro vénézuélienne. On joue de la gaïta. C'est de la musique folklorique. Quand je suis arrivée ici la première année, j'en ai joué beaucoup pour survivre dans la rue. On peut dire qu'au début, j'ai survécu grâce à ça, oui. La seule chose qui te permet de vivre aujourd'hui, là-bas, c'est de recevoir des devises étrangères. Car le bolivar ne vaut plus rien. Une boîte d'œufs est plus chère qu'un salaire mensuel minimum. En général, je trouve quelqu'un de confiance à qui j'envoie l'argent en dehors du pays. Et cette personne le transfère à ma famille. Mais aujourd'hui, c'est illégal de faire cela. C'est difficile de sortir. Il n'y a pas de passeport et c'est difficile de trouver des vols. Nous voyons toujours plus de monde venir, mais rien n'est organisé. Chacun doit se débrouiller. Nous avons déjà un endroit où nous réunir. La seule chose que nous voulons, c'est qu'il y ait des élections libres, le plus vite possible.
Près de sa guitare, sa casquette, arborant le drapeau vénézuélien, souvenir de ses manifestations contre le régime. Aujourd'hui encore, elle la portait lors d'une mobilisation de soutien à Barcelone, dans la capitale catalane. C'est toute une jeunesse qui attend un changement politique pour pouvoir repartir et reconstruire son pays.
À Barcelone pour un jour dans le monde. Merci beaucoup. Et voici Jimmy Cliff sur France Inter, Vietnam. chanson s'appelle Vietnam, comme vous pouvez le constater, Jimmy Cliff sur Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, l'Europe qui nous ravit ou celle qui nous agace, comme tous les jeudis avec Quentin Dickinson. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Quentin, vous êtes à Bucarest en ce moment en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union, mais l'actualité européenne pour vous, c'est plutôt ce que vous appelez la fièvre moralisatrice qui a saisi le Parlement alors que débute partout la campagne des élections européennes.
Eh bien oui, c'est comme ça. C'est comme si les 751 députés européens avaient voulu infliger à leurs propres habitudes un sérieux coup de balai. Il existe depuis la création de l'Assemblée parlementaire européenne en 1952 un règlement d'ordre intérieur qui a été remanié ou complété à de nombreuses reprises depuis lors. Mais les dispositions adoptées il y a quelques heures sont particulièrement contraignantes.
Donc, qu'est-ce qui est imposé désormais aux eurodéputés de si contraignant ?
Eh bien, le premier volet, ce sont les relations avec les lobbyistes. Cette question n'est évidemment pas neuve. De longue date, les lobbyistes, tout comme les journalistes accrédités d'ailleurs, ont accès aux bâtiments du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg. Les lobbyistes doivent s'inscrire dans un registre et indiquer quels intérêts ils représentent. En théorie, c'est parfait, sauf que les cabinets de lobby ont généralement plusieurs clients qu'ils ne gardent pas éternellement et ils n'ont pas nécessairement envie que leurs concurrents sachent tout sur leur portefeuille. Ils ne révèlent donc pas tout en temps réel. D'autre part, les cabinets d'avocats ont également des activités de lobby et leur statut ne les autorise pas à révéler le nom de leurs clients. La nouveauté, c'est qu'il est recommandé à tous les députés européens de publier l'identité des lobbyistes qui leur rendent visite, recommandation qui devient obligation pour les présidents de commissions parlementaires ainsi que pour les rapporteurs. Compte tenu du nombre de rencontres fortuites dans les couloirs, il paraît difficile d'appliquer strictement la règle.
Mais enfin, c'est quand même un pas dans la bonne direction, non ? Plus de transparence, il y a d'autres mesures nouvelles ou pas ?
Oui, le volet suivant oblige les élus à signer une charte de bonne conduite qui couvre aussi bien les cas de harcèlement en tout genre, dont seraient victimes leurs collaborateurs et le personnel de l'institution, que le déploiement de banderoles dans l'hémicycle ou les appels à la haine et autres incitations à la discrimination. À noter, le député qui refuserait de signer cette charte se condamnerait à rester élu de base, interdit de toute fonction politique ou de représentation. Enfin, les eurodéputés sont invités à publier le détail de l'usage qu'ils font de leur indemnité forfaitaire de fonctionnement dites de gommes et crayons, ce qui, chez ceux qui se plieront effectivement à cette fastidieuse contrainte, promet des inventaires à la Prévert dont la lecture n'apprendra sans doute pas grand-chose sur la moralité réelle du signataire.
Est-ce qu'il y a un dernier volet, beaucoup plus politique peut-être celui-là, Quentin ?
Oui, c'est la conséquence directe des nombreux détournements de fonds et de procès, pour l'essentiel du fait d'élus d'extrême droite populiste, qui ont marqué ces trois dernières législatures. Au Parlement européen, pour mettre la main sur le magot, eh bien la bonne formule, c'est de créer un mini-parti ou une fondation pan-européenne, ce qui confère de très nombreux avantages matériels et financiers. Inévitablement, la tentation est grande d'y puiser en pensant que personne ne s'en apercevra. C'est ce qui doit changer. Désormais, s'en sera fini des micro-entités semi-fictives, sans aucune ligne politique concertée, et tout groupe de 50 citoyens pourra exiger une vérification approfondie des comptes et des activités de ces succursales du Parlement européen.
Et une dernière chose, Quentin, est-ce que tout ça est accepté, on va dire, de gaieté de cœur par tous, ou alors est-ce qu'il y a de la polémique dans l'air ?
Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce nouveau règlement a été adopté en plénière par 496 voix pour, 114 contre et 33 abstentions. 107 élus n'ont pas pris part au vote. Dans la dernière ligne droite, les conservateurs du groupe PPE, dont les LR sont membres pour la France, ont voulu imposer la procédure rarissime du vote secret, ce qui a été rejeté de justesse. Avoir voulu un vote secret sur des questions de transparence, il fallait le faire, et voilà qui n'améliore pas vraiment les chances du président du groupe PPE, Manfred Weber, de succéder à Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. À l'issue de la séance, un élu néerlandais se lamentait. Pour lui, il ne devrait même pas être nécessaire de promulguer une telle charte de bienséance. À l'entendre, un vrai responsable politique n'a pas besoin qu'un texte lui rappelle qu'il doit être moralement irréprochable. Visiblement, si.
Quentin Dickinson avec nous tous les jeudis. Merci Quentin.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Franck Madvon ce soir. Franck, voilà des mois qu'on l'attendait. L'Union européenne a enfin dévoilé aujourd'hui un nouveau système de paiement qui doit permettre de continuer à faire des affaires avec l'Iran en contournant donc les sanctions américaines. Économiquement, ça ne devrait pas servir à grand-chose, mais ce mécanisme a d'autres vertus, c'est votre monde à l'envers de ce soir.
Oui, alors d'abord, Fabienne, essayons de comprendre comment ça marche. On pourrait passer presque toute la chronique dessus, c'est assez complexe. Okay. Pour rappel, on l'évoquait hier ici même, les États-Unis, vous le savez, ont quitté l'an dernier l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Ils ont rétabli leurs sanctions contre Téhéran et ces sanctions frappent indirectement presque toutes les entreprises qui font affaire avec l'Iran. Pourquoi ? Eh bien en raison du principe de l'extraterritorialité des lois, c'est-à-dire qu'une loi américaine peut toucher toute entreprise ayant un lien avec les États-Unis. C'est presque toujours le cas lors d'échanges commerciaux avec l'Iran. Le dollar, en fait, est utilisé pour ces transactions et beaucoup de sociétés ont des intérêts sur le territoire américain. Les entreprises européennes sont donc exposées et il fallait trouver un moyen de contourner ces sanctions, d'où le système présenté aujourd'hui. C'est, en résumé, un mécanisme sophistiqué de troc.
Et alors, comment ça marche ?
Alors, trois pays, France, Royaume-Uni et Allemagne, ont créé une société basée à Paris, à Bercy précisément, au ministère de l'Économie et des Finances. Cette société a un président allemand et elle va servir en quelque sorte de chambre de compensation. Alors, on prend un exemple. Un exportateur iranien vend des pistaches à un importateur français. Dans le même temps, un exportateur allemand vend des vaccins à l'Iran. Mais tout passera par cette société de droit français qui payera directement les entreprises européennes ou sera payée par elles. Voilà, vous suivez. Mm-hmm. Il n'y a donc pas de transaction en dollars. Ce système s'appelle Instex. Pour le moment, il n'est pas opérationnel. Il faut pour cela une société équivalente en Iran et cette entité miroir n'existe pas encore.
Donc, et c'est pas la seule faiblesse apparemment du mécanisme.
Non, alors d'abord, ce système ne concernera que les petites transactions. On parle ici de l'agroalimentaire, de la santé, de l'aide humanitaire, mais tout ce qui est lié à l'énergie, notamment au pétrole évidemment, à l'aéronautique, on pense à Airbus, mm-hmm. au secteur automobile, en clair, tous les gros contrats sont exclus du dispositif. Dans ces cas-là, impossible de contourner totalement le dollar ou les États-Unis. Ça réduit considérablement, bien sûr, la portée de ce nouveau système. Et puis, il faudra au final que les importations soient à peu près au même niveau que les exportations pour que le système fonctionne. Or, l'Iran n'a pas grand-chose à nous vendre si on enlève le pétrole des échanges. Pour le dire autrement, le marché des pistaches iraniennes est un peu moins stratégique, Fabienne, que celui des hydrocarbures.
Mais pour les Européens, l'essentiel, évidemment, on l'a compris, est ailleurs.
Mais oui, leur but est d'envoyer un message politique à l'Iran d'abord. Regardez, on s'occupe de vous. Continuez à respecter cet accord sur le nucléaire de 2015. Ça vaut le coup. Téhéran, d'ailleurs, se félicite aujourd'hui de cette première étape. C'est aussi un message adressé aux États-Unis, bien sûr. Nous, Européens, nous croyons encore à cet accord. Nous pouvons nous passer de vous et aider l'Iran. Ce mécanisme est sans précédent et ses artisans sont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ceux-là même qui ont participé aux négociations sur l'accord nucléaire de 2015. L'idée est de sauver ce texte et d'espérer que les États-Unis changent d'avis. Après tout, il ne reste que deux petites années avant les prochaines élections américaines, avant peut-être que Trump quitte la Maison-Blanche.
Voilà, vous faites bien de dire peut-être, parce qu'après tout, Franck Madvon et Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Franck. Le 18-20, la suite, juste après le journal de Sébastien Paour, ce sera Le Téléphone sonne. Et d'ailleurs, j'en profite encore une fois pour vous remercier des nombreux appels hier lors du téléphone sonne grand format avec le Premier ministre. Il y a eu plus de 2000 appels, plus de 6000 réactions et questions sur Facebook, 600 questions sur le site. Ça prouve combien la discussion vous intéresse, combien vous aviez envie de participer aussi. C'est évidemment très compliqué de répondre à tous et d'évoquer aussi tous les thèmes que vous souhaitiez aborder. Il y a forcément eu parmi vous des frustrations. Ça prouve que il faut qu'on refasse ça le plus souvent possible. Ça prouve qu'il faut qu'on casse les murs. On le refera encore. Merci beaucoup. Merci aussi au passage et encore une fois à Fabrice Lègle, à Mélissa Delman, Nathalie Poitvin et Marie-Claude Pinson qui sont aux manettes du 18-20. Un salut amical aussi au standardistes parce que c'est parfois aussi évidemment très compliqué pour eux. Merci vraiment à tous. La suite donc, c'est Le Téléphone sonne d'aujourd'hui, cette fois-ci format normal. On se remet dans les clous en quelque sorte et ce sera juste après Sébastien Paour. À tout de suite.